Voilà, donc notre dernière intervention pour cet après-midi donc sur la question des transports va être celle d'Alain Rallet, qui est professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Paris Sud, membre du laboratoire d'économie de cette même université. Le laboratoire s'appelle RITM, c'est Réseau, Innovation, Territoire, Mondialisation. Alors il est par ailleurs directeur adjoint de l'Institut de la Société Numérique du campus de Saclay, cofondateur du master Industrie de Réseau et Économie Numérique à l'Université Paris Sud de Dauphine. Il est membre du comité de rédaction de la revue Réseau. Et ses domaines de recherche, donc dans le domaine de l'économie numérique, portent sur les modèles d'affaires des écosystèmes numériques, sur les dynamiques d'innovation dans les services numériques, sur l'impact du numérique sur l'organisation spatiale et les problèmes de vie privée posés par la collecte et par l'exploitation des données personnelles. Donc il va intervenir cet après-midi sur la mobilité à l'ère du numérique et nous l'écoutons maintenant. Merci.
Merci de m'avoir invité. Donc la mobilité à l'ère du numérique, je suis surtout spécialiste du numérique et je m'y intéresse parce que ça a un impact sur la mobilité comme sur d'autres phénomènes. Alors c'est une affaire qui est assez compliquée, même très compliquée, essentiellement parce que les phénomènes sont très émergents. On n'a pas le recul nécessaire encore pour discerner vraiment quelles vont être les trajectoires, par exemple, de la mobilité impactée par le numérique. Et on est obligé de faire un peu du brodel à l'envers, c'est-à-dire de discerner des tendances longues dans le présent, en fait, qui est très, très, pour l'instant, assez peu consistant, en fait, du point de vue des expériences. Alors, je ne vais évidemment pas aborder tous les aspects, mais je vais, en fait, essayer de faire passer deux messages, ce qui me semble déjà pas mal. Alors, à l'ère numérique, je vais commencer par le numérique avant la mobilité. À l'ère numérique, qu'est-ce qu'on entend par là ? Si vous m'avez posé la question, c'est parce que on attend du numérique une profonde transformation de toute une série de choses, dont notamment en fait la mobilité ou les mobilités. Et en particulier, cette attente, elle est nourrie par des développements technologiques extrêmement rapides qui se succèdent les uns aux autres. Et là, je cite la dernière génération des outils, mais il y en a eu d'autres avant. Il y en aura d'autres après également. Ce qu'il y a de plus, disons, connexe aux questions de mobilité, c'est évidemment le développement des outils mobiles de communication. J'en profite pour donner ce qui me semble être leurs deux caractéristiques principales à ces outils mobiles de communication. Le premier aspect, c'est l'individualisation du terminal. Je pense que c'est une caractéristique plus importante que la mobilité. Parce que la mobilité, c'est un effet de cette caractéristique première. Si un téléphone est mobile, c'est parce qu'il a été individualisé, donc il est dans votre poche, et si il est dans votre poche, il est forcément mobile. Bon. Sachant que 40% des appels passés par cet outil mobile se font à domicile. Donc on peut les utiliser en situation d'immobilité. Donc ça, c'est la première caractéristique, c'est l'individualisation de ces technologies par rapport, disons, aux outils antérieurs, comme par exemple le PC. Et la deuxième caractéristique, c'est que ça entraîne une quasi-continuité de la communication, à la fois dans le temps, puisqu'on peut être joignable à tout moment, on n'est plus donc séparé par un réseau par la distance, et d'autre part également dans l'espace, puisque on peut être joignable n'importe où, donc il y a une espèce d'ubiquité qui caractérise ces outils. Donc je pense que c'est les deux caractéristiques, à mon avis, qui sont principales. C'est donc l'individualisation du terminal induite par sa portabilité, et deuxièmement la quasi-continuité de la communication. Et ceci va changer notre perception de l'espace et du temps. Je pense que c'est ça la principale transformation, c'est-à-dire que les grandes oppositions binaires qui caractérisent l'espace, c'est-à-dire je suis ici ou ailleurs, je suis présent ou absent, je suis mobile ou immobiles, ces grandes oppositions binaires qui caractérisent l'espace sont en train de s'effacer. En tout cas, les frontières deviennent relativement poreuses, au sens où, grâce à ces outils, on peut être ici et ailleurs. C'est le phénomène, finalement, les gens qui sont avec leur tablette ou leur téléphone portable dans le bus ou dans le métro, et qui sont à la fois dans ce lieu, mais en même temps ailleurs, en jouant sur un autre site ou en téléphonant à quelqu'un d'autre. Donc, on est ici et ailleurs, on est présent et absent. C'est-à-dire, on est présent et en même temps, on est présent ici, mais on est aussi présent ailleurs. C'est-à-dire que ces outils permettent de développer une coprésence à distance. C'est-à-dire, lorsque je quitte quelqu'un, je ne le quitte pas nécessairement, puisque je peux toujours être en communication avec lui. Quand je quitte une réunion, je peux toujours maintenir une communication avec les gens qui restent dans la réunion. Donc, il y a des formes de coprésence qui ne sont plus l'apanage simplement du face-à-face, mais qui peuvent être reproduits à distance. Donc, ça change notre perception de l'espace, et on peut s'attendre à ce que ce changement de perception continue, puisque si on regarde la prochaine étape, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire que l'ensemble des objets qui seraient connectés avec une adresse IP et également l'installation de toute une série de capteurs qui peuvent être à la fois des caméras, mais aussi des capteurs pour la mobilité, etc., et qui vont permettre de faire remonter des informations sur des processus qu'il était autrefois extrêmement difficile de capter, tels que précisément la mobilité. Et ceci donne lieu donc à aujourd'hui tout un débat, toute une série de lobbies aussi sur l'action des smart cities, donc les villes intelligentes. Alors ça, c'est une notion qui est assez mal définie, bien qu'il y a des gens qui font des classements européens sur les villes les plus intelligentes. Le dernier classement que j'ai vu, c'était le Luxembourg, qui était, je sais pas trop pourquoi, mais enfin. Donc il y a des consultants qui bricolent 5 ou 6 indicateurs, qui font des classements, et ça apparaît ensuite dans les journaux. Bon, c'est pourquoi pas. Alors, les smart cities, ça recouvre en particulier les questions de mobilité, puisque il s'agit, grâce justement à ces capteurs qui vont être disséminés dans les villes, grâce aussi aux réseaux de communication qui permettent de faire remonter l'information, et grâce aussi à des capacités de traitement de cette information en quasi-temps réel, enfin, c'est ce que promet plus ou moins ce qu'on appelle le big data, c'est ensuite de pouvoir renvoyer, adresser des services ou des conseils aux gens qui sont dans leur navigation. Alors, il y a beaucoup d'applications, beaucoup d'expérimentations qui sont menées aujourd'hui. Vous en connaissez certainement sans doute et vous les utilisez peut-être. Mais il faut bien dire que ces expérimentations restent finalement une échelle assez peu élevée, assez faible, et qu'il n'y a pas vraiment encore de passage à l'échelle au sens où ce sera un impact significatif sur les flux de mobilité. Et on pourrait opposer finalement les promesses technologiques qui sont offertes et puis la réalité des changements qui est encore relativement faible. Alors, je reviens maintenant à la mobilité. Alors, c'est un terme polysémique. Il y a eu pas mal de littérature récente, notamment de la part des sociologues sur cette question. La tendance est plutôt de parler des mobilités plutôt que de la mobilité. Il y a un sociologue anglais qui est le pape de la mobilité, qui s'appelle John Hurry, qui en distingue 4 ou 5 de mobilité. Alors, moi, je vais vous en proposer un petit cadre assez simple qui permet d'essayer de réfléchir l'impact du numérique sur la ou les mobilités. Alors, on va distinguer 3 types de mobilité que vous connaissez. C'est la mobilité donc des personnes, la mobilité des marchandises et la mobilité des informations. Et on pourrait dire que tout schéma d'organisation spatiale, finalement, résulte d'une combinaison de ces 3 mobilités. Il a toujours fallu adresser des informations aux voyageurs pour qu'ils puissent voyager. Il a toujours fallu aussi guider les camions par des flux d'informations. Donc, ceci est bien antérieur au numérique. Et ça permet d'expliquer comment les choses sont organisées sur le plan géographique. Alors, avec ce petit cadre minimal, c'est qu'est-ce que change le numérique par rapport à cette combinaison de mobilité, personnes, marchandises, informations. Mobilité des informations, c'est évidemment les informations qui sont transmises par les moyens de télécommunication. Alors, que change le numérique pour chacune de ces mobilités et également pour leur combinaison, c'est-à-dire qu'est-ce que produit une mobilité équipée, hein, c'est-à-dire la mobilité, mais équipée avec ces technologies. Alors, je pense qu'il y a deux principaux effets. C'est d'une part, puisqu'il s'agit de systèmes d'information, évidemment, ces technologies vont permettre d'améliorer le pilotage des flux physiques, qu'ils soient des flux de personnes ou des flux de marchandises. Ça, c'est clair. Enfin, c'est la logistique. En fait, on pourrait définir la logistique comme finalement la greffe d'un système d'information sur des capacités physiques de transport. Et le deuxième effet, qui est la dématérialisation de certains contenus. Ça va jouer évidemment sur la mobilité, puisque si on prend les industries culturelles, à partir du moment où vous pouvez transformer un bien physique en suite de bits, en suite de 0 et de 1, hein, donc en bien numérique, bah évidemment, vous dématérialisez, par exemple, le fichier musical, et donc on n'a plus besoin de le transporter sous la forme d'un support physique. Donc ça concerne les biens culturels, mais également toute une série de services. Il y a des services qu'on rendait aujourd'hui, qu'on rendait auparavant à distance, maintenant on peut les délivrer à distance. Pas encore le coiffeur, mais ça viendra peut-être. Voilà, donc cet effet de dématérialisation. Et pour les personnes, qu'est-ce que ça veut dire la dématérialisation? C'est qu'on dématérialise certaines réunions. On n'a plus besoin nécessairement du face-à-face pour échanger un certain nombre de choses. La réunion peut devenir une réunion virtuelle. Alors, quand on essaye de voir quels sont les effets sur la mobilité, on peut dire qu'il y a deux effets contraires. Donc, il y a un effet d'accélération de la mobilité, hein, puisque on facilite la mobilité physique, on améliore les canaux de la mobilité physique, et donc, a priori, donc, on l'accélère, on la favorise. Il y a un deuxième effet, qui est un effet de réduction, qui est notamment dû à la dématérialisation d'un certain nombre de contenus qu'on n'a plus besoin de transporter, et qui ne concerne pas, évidemment, les biens physiques qui ne peuvent pas être dématérialisés. Alors, ceci donc a entraîné un premier débat qui dure encore, mais les gens ne sont pas encore lassés de ce débat, mais c'est est-ce que ces technologies augmentent ou réduisent la mobilité? Donc, augmentation ou réduction, quel effet attendre global de ces technologies? Alors, la première position qui était soutenue, c'est celle de la réduction de la mobilité. Donc, les technologies de l'information et de la communication sont génératrices plutôt d'immobilité. Et voilà, lorsqu'on cite ces technologies, on cite finalement le télétravail, le e-commerce, la e-santé, le e-learning, la visioconférence, etc. Et si on pouvait mourir à distance, on l'aurait fait là aussi, la e-mort à distance. Bon, c'est pas possible, mais il suffit de mettre i devant un phénomène pour le virtualiser et finalement dire ben voilà, ça permet des économies de déplacement. Donc c'était la première position. Et moi j'y vois trois raisons. C'est que la première raison, c'est ce que les collègues sociologues appellent l'imaginaire d'Internet, hein, c'est-à-dire la croyance que la télécommunication, ça permet de faire au loin ce qu'on faisait à proximité. Télécommunication. Hein. Donc c'est l'Internet, c'est le monde en pantoufles. Et la première version du commerce électronique, c'était ça. Je reste chez moi, je n'ai plus besoin d'aller dans le magasin. C'est le commerce en pantoufles. Hein. Donc c'est l'immobilité. La deuxième raison, c'est les attentes fortes en matière de politique publique. Toutes les collectivités se disent, mais quand le télétravail va se répandre de façon à ce qu'on puisse diminuer la mobilité domicile-travail. De la même façon, on attend du commerce électronique qu'il diminue les flux de personnes vers les hypermarchés. La e-santé, c'est pareil, on n'a plus besoin de se rendre à l'hôpital, voilà, il suffit qu'on soit dans le dispensaire local avec un médecin et puis des conseils qui viennent de professeurs de rang supérieur ailleurs. Donc, il y a une attente forte qui existe, c'est la réduction des coûts de congestion et de pollution due à cette mobilité urbaine. Alors, c'est une thèse qui a été très fortement critiquée. On a pu d'ailleurs démontrer, les travaux démontrent que cette thèse est complètement fausse, mais elle est constamment relancée par de nouveaux projets technologiques. Alors, la dernière génération, c'est justement ces outils mobiles de communication. Ensuite, on est passé à une deuxième position. C'est non pas la thèse de la substitution, mais la thèse de la complémentarité. C'est-à-dire que plus on utilise ces technologies, plus ça génère de déplacements, que ce soit de personnes ou de marchandises. Alors, concernant la complémentarité, mobilité des hommes et mobilité des informations, c'est l'idée que plus on se voit, plus on s'adresse de SMS, et plus on s'adresse de SMS, plus on a besoin de se voir. C'est-à-dire que les gens qui se téléphonent le plus et qui s'envoient le plus de SMS, c'est des gens qui se voient toutes les 5 minutes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous prenez le chiffre d'affaires d'un opérateur télécom, le trafic local, c'est 75% de son chiffre d'affaires. Donc, plus on communique à distance, plus on a besoin de se voir. Et la deuxième raison, c'est que ces technologies élargissent la sphère de nos réseaux, hein, sur le plan géographique ou sur le plan simplement social. On connaît davantage de monde, on entre en contact avec davantage de monde, donc ça accroît la taille des réseaux et donc, évidemment, les besoins de se déplacer de face à face, parce que les amis sur Facebook finissent par se rencontrer, en fait, toujours dans la vie réelle. Et puis, troisième raison, c'est que la mobilité est facilitée par l'usage de ces outils mobiles, hein, dans la mesure où votre navigation est facilitée, le déplacement est moins pénible, pendant le transport, vous pouvez faire autre chose que simplement vous déplacer, vous pouvez avoir d'autres activités. Donc ça, c'est la troisième raison. Et puis, évidemment, sur la complémentarité, mobilité des marchandises, mobilité des informations, ça, c'est le commerce, en fait. C'est que plus le pilotage des flux physiques par les flux informationnels est efficace, plus, finalement, on va développer les échanges physiques de biens. Voilà, donc il y a toute une discussion problématique sur mais quel est l'effet qu'il emporte de ces deux effets. En général, les gens sont plutôt pour l'idée que l'éthique, la résultante, disons globale, c'est que l'éthique favorise la mobilité. Alors, l'idée qu'on a avec quelques collègues, notamment de l'IFSTAR, c'est de dire qu'il faudra peut-être dépasser cette problématique. Et la vraie question, c'est finalement, c'est comment l'éthique organise aujourd'hui la mobilité. C'est-à-dire, l'éthique sont des organisateurs de notre mobilité. Alors, pourquoi ? C'est là où ça devient intéressant. Je pense que... Mais là, on entre dans des questions de prospective. Mais il faut savoir anticiper un peu les choses. Je trouve que, en fait, pour deux raisons. La première, c'est que l'effet de ces technologies, c'est de... ce que j'appelais ici, c'est de développer la disjonction spatiale. C'est-à-dire de faire éclater les lieux. C'est-à-dire que, prenons le commerce électronique. J'avais écrit un papier là-dessus en 2001, au début du commerce électronique. Plutôt que de penser que les gens vont rester chez eux à commander des produits à distance, l'unité, l'intérêt plutôt, c'est que l'unité de lieu qui était le magasin, où on faisait tout, c'est-à-dire qu'on s'informait sur les produits, on venait les acheter, on payait et on était livré, cette unité de lieu éclate. C'est-à-dire que vous pouvez commander un produit à partir... vous pouvez vous informer sur un produit à partir d'Internet, vous pouvez aller voir ce produit dans un magasin, vous pouvez aller le commander dans un troisième et vous pouvez être livré dans un point relais encore. Donc il y a un éclatement, on peut pronostiquer un éclatement des lieux. Finalement, c'est ce qui a eu lieu d'ailleurs dans les usines, dans les années 60 avec le téléphone. Hein. C'est-à-dire que le téléphone avait permis justement de disjoindre déjà les lieux de conception et les lieux de production. Là, cette disjonction va maintenant opérer sur des services, va opérer sur des commerces, ou qui étaient caractérisés par une unité de lieu. Et on pourrait, d'une certaine façon, le dire aussi pour le télétravail. C'est-à-dire plutôt que de concevoir le télétravail comme les gens restant chez eux, travailler à distance, le travail va certainement se localiser dans différents lieux. C'est-à-dire que vous serez en partie dans votre lieu de travail, vous pourrez travailler en partie chez vous, mais vous pourrez aussi travailler en partie dans des bureaux de travail temporaires, dans des gares, dans des aéroports, dans des tiers-lieux en quelque sorte, qui vont se créer justement pour accueillir ces formes de travail et qui ne sont pas mesurées statistiquement aujourd'hui, alors qu'elles sont déjà importantes. Donc ça, c'est le premier point, l'éclatement des lieux avec la question, mais quelle va être la nouvelle infrastructure physique de cette disjonction des lieux ? Quels nouveaux lieux vont se créer ? Le deuxième point, c'est l'espace comme continuum spatio-temporel, j'en ai dit un mot tout à l'heure, on va avoir des communications synchrones ou asynchrones entre ces lieux qui sont éclatés. Donc essayer de comprendre la mobilité sous ce double effet, là, les lieux qui éclatent, et ensuite des communications virtuelles entre ces lieux, mais également forcément des mobilités physiques. Donc ça déplace, je pense, la question de l'analyse de la mobilité physique. Alors, quelle nouvelle organisation urbaine va résulter de tout ça ? La question tourne notamment sur le commerce. Est-ce que le schéma, est-ce que l'urbanisme commercial hérité des années 50-60 et de l'ère de l'automobile va se transformer ? Très certainement. Je pense qu'on va avoir un espace beaucoup plus maillé avec des... Ça commence déjà, des magasins de différentes tailles qui vont être localisés en certains endroits de la ville, et puis avec également des processus de mobilité de marchandises entre ces points, et également des mobilités de personnes, puisqu'on pourra commander dans le métro, dans le bus, et puis ensuite se faire livrer éventuellement sur un point de sa chaîne de transport. Bon, évidemment, ça va être très long, hein. Ça va être très long. J'ai une petite anecdote à vous raconter, parce que je vais vous parler de Saclay dans un instant. Mais quelqu'un du CEA, du Centre d'énergie atomique, là, ils sont 5000 sur Saclay, me racontait qu'ils ont mis en place un système de navette qui va chercher les gens quasiment au pied de leur résidence. Et évidemment, ce système de navette coûte très cher. Donc, ils pensent à développer le covoiturage. Les salariés sont contre le covoiturage, notamment parce qu'ils ont acheté des maisons près des arrêts CEA. Et la maison, évidemment, a pris une valeur. Si le système de navette disparaît, la valeur de la maison s'effondre. Et donc, ils sont contre un nouveau système de mobilité qui serait le covoiturage à cause de ça. Donc, on voit bien que cette mobilité, elle est encastrée. Et donc, le système de la mobilité est relativement immobile, finalement. Il est encastré dans des habitudes sociales, dans des routines, dans des valeurs foncières, etc. Alors, deuxième aspect, pour terminer, c'est justement une problématique qu'on essaie, nous, de développer sous la thématique générale que les questions de mobilité sont trop sérieuses pour être laissées aux spécialistes des transports. Alors, de quoi il s'agit ? C'est l'idée d'utiliser le numérique pour modifier l'approche des problèmes de transport et de mobilité. Bon, assez ambitieux, mais j'espère que je vais me faire comprendre. Parce que le numérique aujourd'hui, c'est quoi ? On va résumer de façon très grossière. Le numérique aujourd'hui, la nouveauté, c'est le web participatif. C'est le web 2.0. Et dans le web 2.0, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des services collectifs qui sont produits à partir de l'agrégation de choix individuels. À Wikipédia, personne ne pouvait penser qu'on pouvait faire une encyclopédie à partir d'individus. Ça révolutionne complètement le mode éditorial. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le crowdsourcing, ou le crowdfunding. J'étais justement au Festival de Cannes hier sur un débat là-dessus. Les gens au milieu du cinéma se disent, mais alors, est-ce qu'on ne pourra pas financer, peut-être pas les blockbusters, mais au moins des documentaires ou certains films, avec justement le financement par la foule. Bon, il y a tout un débat là-dessus. Donc, on s'aperçoit que sur toute une question comme ça, il y a des services collectifs qui sont produits de manière assez innovante à partir de la capacité à faire interagir des individus à travers des plateformes. Bon. Alors, ça, c'est un nouveau mode de production, et je dirais que c'est l'innovation actuelle du numérique. Bon. Alors, voyons ce que ça donne par rapport au transport. Ben, c'est très antagonique avec la vision actuelle des transports. Parce que la vision actuelle des problèmes de transport est très top-down. Si on voit le discours des transporteurs et des aménageurs, c'est un discours sur de lourdes infrastructures, des milliards d'euros qui sont en jeu. C'est très souvent un discours d'ingénierie technico-économique, d'optimisation des flux, c'est le maître mot. C'est des horizons improbables, 2030, 2040, on a un métro qui doit arriver à sa clé. Au début, c'était 2020. L'an dernier, c'était 2030. Et maintenant, on espère que ce soit 2040, s'il arrive. Bon. Donc, c'est des horizons extrêmement lointains. Et c'est un discours abscons. On a fait des vidéos à partir de phrases prises dans le discours des aménageurs et des transporteurs. Voilà, je cite qu'un exemple, mobilité multimodale écologiquement responsable. C'est un tissu de phrases de ce type. Alors, dans ce dispositif de représentation, l'individu n'est qu'une source de problème. L'individu est un problème. Il n'est jamais source de possibles solutions. Il est source de problème. C'est une variable d'ajustement. Et si on pouvait l'éliminer, on se passerait volontiers de l'individu. Et donc, comme il est source de problème, eh bien, il faut le contraindre par des dispositifs qui sont coercitifs. Donc, c'est des tas de réglementations, ou alors par des incitations que je cite un peu de type pavlovienne, c'est-à-dire on lui balance une taxe pour voir comment il va réagir. Donc, on voit que dans ce dispositif, il entraîne forcément la démobilisation des individus. C'est-à-dire que l'individu ne trouve pas cette place, en fait, dans ce dispositif de représentation de la mobilité, et donc il n'a aucun choix à faire. Et on voit bien que lorsque on enquête auprès des individus, ils sont toujours en train de se plaindre de la RATP, des bus qui n'arrivent pas, etc. C'est sur le mode de la plainte. Donc on a d'un côté des institutions qui les déresponsabilisent et de l'autre des gens qui finalement disent ben, « voilà, c'est aux institutions de régler nos problèmes ». Alors, on a choisi de développer une autre approche et on a choisi la zone de Paris-Saclay. Parce que ça nous a semblé absolument extraordinaire, cette zone, puisqu'il y a des embouteillages en plein... C'est des champs. Hein. Bon. Mais il y a des embouteillages dans les champs. Bon, déjà ça nous a alertés, tout à fait intrigués. Et surtout, la situation va être catastrophique. Parce que par une décision purement technocratique, on balance dans cette zone des gens sans infrastructure de transport, sans logement, sans commerce... Bon. Et par exemple, bon, il y a déjà 25 000 personnes sur cette zone, mais l'an prochain, ils sont en train de construire le centre R&D d'EDF, il y a 5 000 personnes qui vont arriver. Il n'y a aucun moyen de transport. Et les routes, et surtout les ronds-points, vont rester les mêmes. Bon. Et tous les ans, il y a de nouvelles écoles qui vont arriver, de nouveaux établissements qui vont arriver, etc. Bon. Les gens en ont marre parce qu'ils habitent à 10 km, ils mettent déjà 2 heures pour arriver. C'est une situation qui est explosive. Et il n'y a aucune solution institutionnelle. Ça, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, le métro, qui était présenté comme le Messie, ben, la date d'arrivée est reportée, mais les gens, ils arrivent tout de suite. Ils ne vont pas arriver à 2040. Et on nous dit, ben voilà, il faut des investissements très lourds. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a... Alors, dans cette situation, le contexte est très favorable pour essayer d'introduire une autre approche, qui est de dire, on pourrait... D'abord, il faudrait changer la représentation qu'ont les individus de leur mobilité, donc remettre l'individu au centre, et non pas qu'il soit simplement source de problèmes. développer donc une image positive de sa mobilité et s'appuyer sur les pratiques existantes de mobilité, telles que décaler les horaires, telles que prendre quelqu'un ou être pris par quelqu'un en voiture, telles que changer de mode de transport. Ce sont des pratiques qui existent. Être capable de les mesurer et de faire valoir qu'elles ont une valeur collective dès lors qu'elles sont mesurées et que cette mesure est renvoyée aux yeux des individus. De façon à ce que les gens, d'autres personnes évidemment, adoptent ces pratiques. Alors, notre idée, c'est justement, c'est, parce qu'on voit bien que les appels à faites de covoiturage, c'est aussi efficace que dire arrêtez de fumer. Il n'y a aucune. Voilà. Donc on ne tient pas du tout ce discours-là, on ne demande même pas aux gens de changer de comportement. On cherche simplement à mesurer des gestes quotidiens de mobilité qu'on a définis. Et on veut faire apparaître justement une mesure collective de ces gestes. Et ensuite voir quelles seraient les incitations qui permettraient de développer ces pratiques. Alors, voilà, ça peut être des incitations purement individuelles, ça peut être de la compétition interindividuelle, ça peut être des effets de groupe, et on croit notamment beaucoup aux effets de groupe, ou ça peut être éventuellement des incitations monétaires. Donc, on va essayer de tester toutes ces incitations. Et je vais terminer là. Vous dire qu'en fait, on a cette expérimentation, justement, elle a lieu, et ben, on l'a lancée d'ailleurs cette semaine. Elle s'appelle MobyDix. Et alors, dans un premier temps, c'était intéressant pour le changement de représentation. On avait un accord avec une plateforme d'Orange et on proposait aux volontaires de les suivre pendant une semaine et de leur donner une représentation de leur mobilité sous la forme d'une empreinte 3D. C'est en fait une place de plastique. Ici, les collines, en fait, c'est les lieux qui sont occupés, c'est le temps, hein, on occupait le lieu pendant une semaine. Donc, en fait, si vous avez uniquement deux pics, ça veut dire que vous avez une vie stupide, boulot de dos. Là, c'est déjà une vie un peu plus riche. Et les gens, lorsqu'on leur a donné cette représentation de leur mobilité, ont dit, mais ça, c'est ma vie. Donc, la mobilité n'est plus déléguée à des institutions, à des milliards, des infrastructures, etc., toutes choses dont ils sont absolument dessaisis, mais c'est l'envie de tous les jours. Et on essaie de mesurer l'impact de cette restitution de l'empreinte de leur mobilité sur ensuite l'acceptation de passer à la deuxième phase de l'expérimentation, dont je dis juste un mot. On a développé une application mobile. On veut mesurer les gestes quotidiens dont je vous parlais. Donc, on a défini en fait trois gestes. Le lag, c'est-à-dire je pars plus tôt, je pars plus tard, ou aujourd'hui je fais du télétravail. Le drop, c'est je suis pris par une voiture ou je prends quelqu'un dans ma voiture. Et le switch, c'est aujourd'hui je suis venu en vélo alors que d'habitude je viens en voiture. Donc, je change de mode de transport. Bon. Et on valide, on peut même mettre l'humeur, parce que si on est très fâché dans les transports, on peut mettre l'humeur. On valide, et donc, voilà, on a un certain nombre de points. Et on a défini un outil de type Twitter, où on peut adresser des tweets, des messages. Bon, voilà, je suis dans tel endroit, et je voudrais... est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va aller dans tel autre endroit du plateau de Saclay ? Et on peut échanger des informations sur le bus, les problèmes dans le RER, ou la N118 qui est à côté. Et on a fini des hashtags aussi par lieu. C'est-à-dire que si vous cliquez, ça c'est un restaurant, Corbeville, Interentreprise, si vous cliquez ici, vous avez tous les messages qui sont relatifs à ce lieu. Voilà. Donc là, on est en train de recruter des volontaires. On en a recruté déjà une cinquantaine. On va remonter une centaine. Faire fonctionner l'application pendant un mois et demi. Et là, après, on va introduire des incitations différentes pour voir celles qui marchent. Premier, je peux vous le dire, parce que vous n'allez pas faire l'expérimentation, mais les gens ne le savent pas. Ah ben non, sinon, les résultats seraient biaisés. Donc, la première incitation, quand vous validez, vous avez des points. De même que si vous parrainez quelqu'un d'autre, vous avez des points. Donc, la première semaine, on va les confronter à leur score, simplement, pour tester si le fait de leur envoyer leur score... Voilà, ils veulent se dépasser, quoi. J'ai eu 80 points cette semaine. la semaine prochaine, vous allez faire 90 points. Bon. Deuxième test, après, autre incitation, on va faire la compétition interindividuelle. Vous êtes 31e sur le plateau de Saclay. Après, on va introduire de la compétition entre groupes, puisqu'on a leur établissement. Donc, les Thalès contre les Polytechniques. Bon. On serait très intéressé pour montrer que les Polytechniques sont en dernier, quoi, en dernière position. Donc, voir si ça marche. Et après, on va faire de l'incitation monétaire, c'est-à-dire qu'on va en fait, faire une loterie parmi ceux qui ont le plus de points. Et... Bon, voilà, parce que les gens qui sont... Les institutions qui sont en charge du plateau, la comité d'agglomération et l'établissement public de Paris-Saclay, sont très intéressés par l'expérience. Et eux, ils croient beaucoup aux incitations monétaires. Bon, ben nous, on n'y croit pas beaucoup, on y croit beaucoup moins. Donc, on va tester tout ceci. Donc, ce qu'on veut surtout montrer, c'est qu'il y a un autre type d'approche possible. Dans le contexte actuel, bon, finalement, où les institutions n'ont pas grand-chose à proposer en matière de mobilité, et de montrer que les choix individuels, au lieu de produire des externalités négatives, peuvent produire des externalités positives. C'est ça l'objectif. À suivre.
Merci beaucoup. Je renvoie tout de suite le micro vers la salle. S'il y a des questions... Oui.
Merci. Merci pour votre présentation. Moi, ça m'étonne, en fait. Je ne pensais pas que vous alliez forcément nous montrer ça. Je m'attendais plus à voir, un peu comme quand j'étais intervenu ce matin, des choses presque plus positives sur le web participatif et ce que les gens pouvaient faire ensemble pour essayer d'améliorer plutôt que ce côté compétitif qu'on introduit. Enfin, je pense que juridiquement, vous ne serez pas responsable si les polytechniques rêvent les pneus des vélos de ceux de chez Thalès, mais enfin, vous voyez un peu mon point de vue, quoi. Ouais, je suis étonné, parce que enfin, peut-être que l'idée à la base, plutôt que de créer des problèmes en mettant tous les trucs sur sa clé, on pouvait les laisser là où ils étaient, ça marchait aussi pas mal. Mais ouais, je ne sais pas. Je trouve que c'est... Enfin, ce matin, on était dans des problèmes très... plus d'énergie, pas mal de choses comme ça. Et que là, on est quand même arrivé sur des choses assez déconnectées, alors que c'est pourtant des choses très connectées. Mais enfin, voilà, je suis un peu étonné.
On est toujours étonné par l'innovation.
Micro.
Qu'est-ce qu'il a dit ? On est toujours étonné. Mais c'est bien, comme ça, on voit autre chose. Hein. Mais je pense... Je pensais que dans les cycles, là, les gens travaillaient, je ne sais pas si... mais peut-être que vous étudiez plus ce côté-là que le côté participatif, parce que le côté Twitter, un peu, là, je vois le côté un peu participatif, mais le côté point... vous croyez vraiment que les gens, il faut leur dire qu'ils gagnent 5 points quand ils prennent leur vélo pour qu'ils se rendent compte que c'est bien de prendre son vélo plutôt que la voiture ? Je ne sais pas, ça me paraît un côté un peu abrutissant des gens, ou alors les prendre pour des abrutis eux-mêmes, enfin, je sais pas. Moi, je suis étonné, quoi.
Non, mais on ne croit pas du tout au comportement moral, c'est-à-dire aux injonctions morales, faites du web participatif, participer, etc. Il faut savoir que toutes les applications qui sont développées aujourd'hui ont un succès extrêmement confidentiel. Il y a des trucs, des plateformes de covoiturage. Ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas du tout.
Bon.
Non, le covoiturage, même si le travail, la SNCF, ils n'interviennent pas. Hein. Ils sont... Non, je parle du covoiturage domicile-travail. Le covoiturage de blablacar longue distance, ça ne pose pas du tout le même type de problème. Non, mais c'est-à-dire qu'on essaie de voir quels sont les... Justement, quand vous regardez les applications du web participatif, il y a des processus de gamification. Ça fonctionne d'ailleurs là-dessus, en fait. Donc, là-dessus, nous, on reprend, en fait, les pratiques qui sont déjà développées sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est de croiser une problématique de type réseau social, web 2.0, avec ces questions de mobilité. C'est ça le but du jeu.
Et on continue. Ah, c'est que je vais donner à quelqu'un d'autre.
Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, votre application, en fait, ça va être une sorte de baromètre des déplacements, finalement, des personnes, dans laquelle vous allez incorporer, en fait, une sorte d'influence sur les personnes en essayant de tester plusieurs solutions. Et vous pensez que ça va pouvoir solutionner, par exemple, les problèmes de congestion sur le plateau de Saclay. Mais est-ce que vous pensez que c'est la seule, que c'est une solution à appliquer conjointement avec l'amélioration des infrastructures? Ou est-ce que vous pensez que ça peut être suffisant dans le cadre d'un lieu comme le plateau de Saclay où il va y avoir de nouvelles entreprises qui s'installent et qu'il va y avoir une augmentation forte de la population de travailleurs et des déplacements ou est-ce que c'est plus complémentaire du développement des infrastructures?
Non, idéalement, on le voit comme complémentaire. Seulement, le complément n'existe pas puisqu'il n'y aura pas de nouvelles infrastructures. Même le métro du Grand Paris... On peut parier qu'à 90%, il ne verra pas le jour aujourd'hui.
Bon.
Alors, non, on ne se substitue pas. Nous, ce qu'on apporte, c'est un autre type d'approche et de solution. C'est-à-dire, par exemple, c'est venu aussi de notre expérience personnelle, parce qu'on a battu la campagne à travers ce fameux plateau de Saclay. Mais si vous avez un système comme ça qui permet d'être droppé, de dropper quelqu'un, bah, vous n'avez pas besoin du système de navette. C'est-à-dire, il y a un taxi collectif au sein du plateau de Saclay. Ça ne vous pose aucun problème pour aller d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, ça pose des problèmes. Vous ratez d'une minute le bus, vous attendez 30 minutes. Après, vous allez à Massy-Palaiseau, prendre le RER, vous attendez encore 20 minutes. Donc les transports, c'est hallucinant. C'est absolument hallucinant. Donc l'idée, c'est justement de s'appuyer sur les pratiques des individus. Et on n'appelle pas au covoiturage, on n'utilise même pas le mot de covoiturage. Parce qu'on sait que le covoiturage, on sait pourquoi il ne se développe pas aujourd'hui, parce qu'il rencontre une série de problèmes, les gens, bon, ils n'aiment pas partager leur voiture en général, et encore moins avec un collègue de travail qui n'apprécie pas du tout. En plus, l'autre, il arrive tous les jours, tous les matins en retard, etc. On voit bien pourquoi le covoiturage n'est pas pratiqué, et d'ailleurs pourquoi la pratique du covoiturage diminue historiquement, alors même qu'on ne cesse d'en parler aujourd'hui. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Alors, le covoiturage, par exemple, aux États-Unis, là, ils sont tombés, il y a une dégringolade historique. Hein. Ils sont à 1,02 personnes par voiture, donc ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Hein. Donc, on évite de parler de covoiturage, plutôt de... Voilà, je passe devant une station de bus... Je vois des gens qui attendent, sinon ils vont attendre 20 minutes éventuellement dans le froid et la neige. Je les prends, je les mène à la station de RER qui est en bas du plateau. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. On ne demande pas aux gens de faire du covoiturage, de partager leur voiture, je ne sais pas quoi. Ça nous est venu, ça, enfin, on fait beaucoup d'économie comportementale derrière, en fait. Par exemple, si vous faites une campagne contre la faim, vous dites donner pour lutter contre la faim dans le monde, personne ne donne. Hein, si vous individualisez le problème en disant si vous donnez 3 euros à cette petite fille d'Éthiopie, ça va lui permettre de manger pendant 4 jours. Et là, les gens donnent. Donc, il faut essayer d'analyser quels sont les ressorts des comportements. Et évidemment, cette analyse des comportements, elle n'est pas du tout pratiquée par les aménageurs. Qu'ils ignorent complètement les individus. Hein, c'est ça. Ça n'a gêné personne d'entasser tout ce monde sur le plateau de Saclay. Personne.
Il n'y a pas d'autres exemples de ce type dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a d'autres types, parce que ça peut s'appliquer à d'autres pays, ou il y a peut-être des pays où le covoiturage marche mieux, je ne sais pas, en Europe?
Non, enfin, il y a eu des expériences qui ont été faites en Inde, à Bangalore justement, et puis à Stanford aussi. Mais c'est aujourd'hui assez peu développé, quoi. Et l'idée qu'on a aussi sur cette application, c'est que, bon, voilà, si ça fonctionne sur Saclay, après, c'est que n'importe qui peut s'en emparer pour l'utiliser dans un autre coin. Mm. C'est-à-dire l'idée qu'on va développer ça, non pas par une audience qui sera différenciée, mais par la multiplication de réseaux locaux.
Vous allez la vendre ?
Non, parce que non, on n'est pas...
C'est une question subsidiaire.
On fait ça, n'importe qui.
Non, mais c'est assez quand même déroutant ce que vous dites par rapport à la façon dont dont les pouvoirs publics s'impliquent concernant les réseaux de transport. Parce que bon, on dit que depuis ce matin, on dit que c'est les politiques s'y intéressent, que c'est un vrai problème politique. Et quand on voit le no man's land de Saclay avec une obligation pour un professeur, c'est votre métier, mais quand même, de faire une application mobile, c'est quand même aberrant. Mais ce qui est bizarre, c'est que je suis étonnée de la réaction de cet étudiant qui dit que c'est un côté un peu mercantile, même le côté jeu, etc. Mais je veux dire, vous êtes de cette génération Internet, vous faites que ça, jouer. Non ? Bah, c'est ça, ça m'étonne, votre réaction. C'est-à-dire que moi, je suis une vieille ringarde, là, je réagis d'une manière plus positive que vous. Et je ne sais pas, vous êtes en plein dedans et vous ne trouvez pas que ça, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous... Ça, c'est peut-être un autre sujet, mais vous n'avez pas tort. Non, mais si vous voulez... Non, c'est pas ça. C'est que je dis que vous êtes. Je ne parle pas des cours. Je dis que vous aimez Internet. Vous êtes impliqué dedans. Vous avez des données que notre génération n'a pas. Donc vous jouez. C'est une question de dire que il y a quelque chose de ludique aussi dans votre vie que nous ne connaissons pas. Nous, on joue au Monopoly. On ne connaissait pas autre chose. Donc et là, on vous dit il y a une application Internet qui peut être sympa. Et soit vous réagissez pas, soit vous dites ben écoutez on gagne des points. Quel intérêt? Je suis étonnée, c'est tout, parce que ça ne correspond pas à l'idée que je me fais de votre génération, justement, qui est très impliquée dans les nouvelles technologies.
Mais où est le côté mercantile ? Je n'arrive pas à comprendre dans l'expérience.
J'ai dit que vous aviez l'air de dire que c'était mercantile. On ne va pas faire un débat tous les deux, mais j'ai l'air de dire que c'était justement les notions de points, de jeu, etc. Ça vous gênait parce que, mais en fait, vous jouez tout le temps. Vous dites, dès que vous ouvrez votre ordinateur, vous êtes sollicité, même pour avoir des réductions de 40 à 50% quand vous achetez des godasses. L'ordinateur, non, vous ne faites pas ça, vous voulez.
Je crois que son témoignage n'est pas très représentatif, mais en fait, le truc, c'est pas parce qu'on croit en des valeurs morales que tout le monde est moral et que même soi-même, on a un comportement moral. Et de plus, c'est un côté très ludique, cette application, donc c'est pas franchement le côté moral ou pas moral, en fait. Non,
c'est pas ça. J'ai pas dit ça. Je ne crois pas aux injonctions morales du style changer de comportement. Parce qu'effectivement, là, on en fait le tour du plateau de Saclay, on discute avec les gens. Alors, il y a des tas de gens qui ont des valeurs morales qu'ils affichent et qui ne veulent absolument pas participer à des solutions collectives. Ça c'est le plus redoutable d'ailleurs.
Ce qui est plus choquant là-dedans, en effet, vous l'avez dit aussi, c'est le fait de se substituer aux politiques. Voilà, c'est ça qui est choquant. C'est pas le fait d'essayer de trouver des solutions qui sont des solutions pratiques, pragmatiques pour des gens qui attendent une demi-heure dans la neige. Mais ça, moi, c'est ça qui me choque.
Non, mais là, on va revenir au numérique. Hein. Le numérique, il a quand même changé un certain nombre de choses. Je citais l'exemple de l'édition, des industries culturelles, etc. Enfin, il est en train de bouleverser toute une série en proposant d'autres modes de production, précisément, des biens et des services. Donc l'idée, finalement, de produire des services collectifs par un dispositif de coordination entre les individus, ça, c'est ce qu'on voit dans Wikipédia, par exemple, on a vu ça. Je veux dire, c'est un processus complètement auto-organisé.
Et est-ce qu'il peut y avoir deux niveaux aussi, par exemple, est-ce qu'il y a des étudiants qui ne parlent pas le français qui peuvent... les applications, parce qu'il y a pas mal d'étudiants étrangers aussi. Comment ils s'en sortent par rapport à ces applications-là ? Est-ce qu'ils sont... Est-ce que la population Il y a des individus, est-ce que la population est...
Non, il n'y a pas de problème. Hein. C'est tout le monde. D'ailleurs, c'est à moitié en anglais, d'ailleurs, le vocabulaire est à moitié en anglais. Ouais. Enfin,
vous pouvez télécharger actuellement, demande mademoiselle.
C'est développé en HTML5. On n'a pas voulu que ce soit une application, disons, en fonction d'une plateforme. Donc, c'est, vous pouvez l'avoir sur un PC ou sur un Mac ou sur un smartphone, Android, etc. Simplement, il faut utiliser le navigateur Safari ou Chrome parce que, bon, faire tous les navigateurs, ça suppose de développer encore plus l'application. Et comme nous, c'est uniquement une expérimentation, c'est pas...
Donc, si on a Safari ou Google Chrome, on
peut... Absolument.
Donc, il faut avoir des iPhones.
Oui, oui.
Moi, je ne peux pas, moi, avec mon portable. Et donc, vous parliez de Orange, justement, ça peut être intéressant. Là, on parlait justement de la recherche et de la relation de la recherche avec l'entreprise. Mmh. Là, ça devient intéressant aussi pour vous, si vous brevetez votre trouvaille, oui, entre guillemets, votre recherche, pardon, mmh, et que vous le pouvez l'appliquer avec Orange. Donc,
Oui, mais bon, les gens d'Orange nous suivent. On n'a pas voulu dépendre d'un opérateur. Mmh. De Michelin également, innovation. Là. Mm. Voilà, donc voilà, si on arrive à matérialiser cette approche, ça sera tout à fait intéressant. Je crois qu'il y a un enjeu extrêmement important. Et d'ailleurs, les institutions elles-mêmes sont intéressées parce qu'ils sont vraiment dans une impasse totale. Quoi. Mm. Non, mais je pense que l'idée, c'est de savoir... La question du numérique, c'est quelles opportunités ça crée et à quelles conditions. Bon. Vous voyez, dans le débat au Festival de Cannes sur le crowdfunding, l'objection, c'était « Ouais, mais ça ne va pas remplacer les financements publics ou privés pour des films qui font 10 millions d'euros, etc., de budget. » Ça, c'est clair. La question n'est pas celle-là. La question, c'est lorsqu'on regarde l'économie aujourd'hui du cinéma et de la culture... C'est une économie du best-seller où vous avez 90% des ventes qui sont concentrées sur 5% des artistes. Donc, ce qui existe aujourd'hui, c'est que les gens ne peuvent pas vivre de leur art. C'est ça la question. Donc, la question qui est posée, est-ce que le numérique permet d'ouvrir l'opportunité d'une autre économie, de la petite série, par exemple, qui pourrait créer ses propres écosystèmes, son propre public, au-delà même de la question du financement. Donc ça, c'est des enjeux à long terme. Mais la question est de savoir, en fin de compte, si le numérique crée des innovations ou pas. Ou si on applique ça dans le système ancien.
Là, vous en êtes persuadé, de toute façon.
Ah bah ouais. Bah oui, parce qu'il y a quand même des innovations importantes et des transformations qui ont eu lieu. Hein.
Donc, en tout cas, merci à nos intervenants et merci à nos auditeurs pour les débats. C'est très sympathique. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain matin, 9h en forme. À demain. Avant de partir.